J'ai passé une semaine à Paris récemment et à cette occasion, j'ai rencontré pour la première fois Céline de la Célinathèque. Donc elle et moi, on se connaît en ligne. On s'est rencontrés à l'occasion d'un groupe de coaching qui s'appelle YouMind. Et on a bien accroché, elle et moi. Et du coup, vu que j'étais à Paris et qu'elle pouvait venir à Paris, on s'est rencontrés là-bas. On a passé la journée ensemble et en discutant avec elle, j'ai réalisé à quel point vous êtes nombreux et nombreuses à croire que votre savoir n'est pas légitime, que votre façon de faire la recherche n'est pas intelligente et que si vous ne citez pas vos sources, et quand je dis sources, je veux dire des livres que vous avez lus en entier, alors votre parole ne vaut rien. Bonjour, bienvenue sur Intimatopia, le podcast qui t'aide à renouer avec ta créativité. Je suis l'éclairance, je vais bientôt mourir, et en attendant, j'accompagne les personnes qui n'arrivent pas à noircir la page blanche. Dans ce 12e épisode, je vais te transmettre la méthode que j'utilise pour générer du savoir. Ce savoir m'est utile pour créer le contenu que vous êtes en train de consommer, évidemment, mais pas seulement. Dans son bouquin La formule du savoir, Lee Nguyen Hoang a cette formule hyper cool que j'ai envie de vous partager. Il dit « Tout est fiction ». Le savoir revient simplement à déterminer les fictions utiles. C'est vrai que moi j'ai une tendance, on va dire nihiliste, à dire que rien n'est vrai, que la vérité c'est la mort. En fait, cette posture-là, de penser que rien n'est vrai, que la réalité objective est inatteignable, elle a des limites, et notamment elle a des limites dans le fait d'occuper sa vie, de donner un sens à son existence. Et le savoir, en cela qui nous donne accès à une banque de croyances plus ou moins solide, nous permet de ressentir et nous permet en fait de donner une direction à notre vie. Enfin, c'est en accumulant les observations du monde que je trouve qu'on peut donner une direction à sa vie. Enfin, moi, je sais que je peux pas donner une direction à ma vie sans les autres. Enfin, je suis un animal social, quoi. J'avais envie de te poser une question dans ce podcast. Et c'est, est-ce que tu sais quel est le but de ton savoir? En fait, pourquoi tu cherches? En fait, moi j'ai une croyance qui est que si on n'admet pas ce qui nous met en mouvement, ce qui nous touche, ce qui fait sens pour nous, aucun savoir ne sera jamais utile. Si on n'a pas d'intention, le savoir qu'on va accumuler ne résonnera pas avec ce qu'on a envie de construire. Une fois qu'on a trouvé ce qu'on cherche, on va être confronté à d'autres blocages au moment où on part à la recherche du savoir. Et un des blocages auxquels j'ai envie de m'intéresser aujourd'hui, c'est l'idée que ce qui t'intéresse n'est pas légitime. Que ce qui t'intéresse n'a aucun intérêt. Alors déjà, j'aimerais qu'on se pose deux minutes et qu'on constate que dans la phrase même, il y a un problème. Ce qui t'intéresse n'a pas d'intérêt. Déjà, si ça t'intéresse, c'est que ça a un intérêt. Sinon, ça ne t'intéresserait pas. Pourquoi ça t'intéresse, toi ? C'est un bon début, à mon avis, pour identifier ce qui peut intéresser les autres. J'ai réussi à tenir 11 épisodes sans parler de Bourdieu. Mais là, on arrive à ma limite. On va donc aborder la question du savoir légitime, savant, et du savoir illégitime, populaire. Pierre Bourdieu était un sociologue français. Il est originaire d'un village qui est à 35 minutes du village de mes parents. Enfin, du village, de la ville. Dans le Béarn. Il est considéré aujourd'hui comme un des intellectuels les plus importants du XXe siècle, notamment pour ce qu'il a apporté au concept de lutte des classes. Donc Bourdieu, il dit qu'être bourgeois, c'est pas seulement posséder les moyens de production. Il y a en fait, il y a un ensemble de capitaux qui permettent d'identifier qui est légitime à évoluer dans les hautes sphères et qui ne l'est pas. Si ça vous intéresse d'aller plus loin que ce que je viens d'exposer en 3 minutes, je vous conseille le travail de Monique et Michel Pinson-Charlot, qui sont deux sociologues, qui ont décidé de s'intéresser aux riches, et qui ont publié plusieurs ouvrages à ce sujet, et même un film. Et je vous conseille de vous renseigner là-dessus. Bon, je reviens à ce que j'ai envie de développer. Si vous êtes passionné par la musique de Bach, et d'ailleurs si vous dites à l'allemande Bach et pas Bach, vous avez plus de chances d'être invité chez Rothschild que si vous adorez Squeezie, par exemple. D'ailleurs, il y a plus de chances que vous aimiez Bach en ayant fréquenté les milieux des ultra-riches qu'en ayant des parents agriculteurs dans la Creuse. Bourdieu, il a mis en lumière ça. Il a mis en lumière le déterminisme social qu'on n'a pas forcément envie de regarder les yeux dans les yeux. Que, en fait, l'endroit d'où on vient détermine quand même un peu l'endroit où on va. Que seulement 5% des enfants d'ouvriers arrivent à l'université et encore moins à l'école nationale supérieure. Si vous êtes né pauvre, vous avez de grandes chances de rester pauvre. En tout cas, selon ce que les riches appellent la pauvreté. Si toute votre scolarité, on vous a dit que votre culture, votre savoir et votre passion n'étaient pas légitimes, que les livres que vous lisiez, les films que vous regardiez, les activités que vous animez n'étaient pas reconnues comme valides, forcément vous avez commencé à le croire. J'ai grandi dans une famille issue du milieu ouvrier. Dans la famille de ma mère, tout le monde a pris l'ascenseur social pour devenir fonctionnaire. Mes tantes étaient instit ou prof, mon oncle était facteur, et ma mère était médecin. J'ai choisi d'employer l'imparfait dans cette phrase parce que la casse du service public qui a lieu en ce moment même fait que je suis plus sûre qu'on puisse parler de privilège. Aujourd'hui, je suis un intello précaire. C'est-à-dire que j'ai un master, ce qui me confère un certain capital culturel, que je suis capable de citer Nietzsche ou Bourdieu, que je connais les codes du théâtre subventionné d'Avignon, et que je vais au cinéma une fois par semaine. Mon capital culturel est très élevé, et ma culture est extrêmement légitime. Ce qui me permet, paradoxalement, une très grande liberté dans les sujets que j'aborde, car j'ai toujours la certitude de pouvoir les raccrocher, au moins par un bout, à ma culture savante. Pourtant, sans Adrienne, ma prof de yoga, sans Esther, la youtubeuse beauté ancien témoin de Jéhovah, sans Durandal, le critique ciné-gay, sans Nana, l'animé japonais, sans Harry Potter, sans Disney, sans les sound systems de la fête du Carbet, sans Admiralty, Sahel, sans le meilleur pâtissier et top chef, sans Siberia, et mille autres choses, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. Ma croyance personnelle, c'est que la culture avec un grand C n'est jamais une question de choc transcendantal. Choc transcendantal, c'est André Malraux qui emploie ce terme quand il est ministre de la Culture en 1959. Il dit un truc du genre « les belles œuvres de l'humanité, Athènes, l'Antiquité grecque ». Moi, je n'y crois pas. Je pense que la culture avec un grand C, c'est toujours une affaire d'impérialisme, de pillage, bref, de violence. Ce que l'on considère aujourd'hui comme beau, c'est le résultat d'un rapport de force avant tout. Tout ce que je vous dis là, je vous le dis d'un positionnement d'intello de gauche, précaire mais en voie d'explosion. Je sais que Zemmour aurait certainement des arguments pour me contredire, et c'est ok. Ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, au-delà des arguments d'autorité que je viens de vous donner, c'est que votre savoir est légitime. J'aime Internet, parce qu'il permet de devenir riche et célèbre en parlant de cartes Pokémon. J'aime Internet parce qu'il permet aux afro-féministes de trouver une audience et de peser dans le game politique. J'aime Internet parce qu'il permet une circulation des savoirs et des opinions et que grâce à cette pluralité, je me sens plus en patte. Vous avez le droit de transmettre ce que vous aimez. Vous avez le droit de dire des conneries. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Pour moi, être de gauche, ce n'est pas seulement répartir les richesses, réduire le temps de travail et donner aux travailleurs la propriété des moyens de production, même si c'est quand même la base. Il y a aussi un truc plus intuitif, plus poétique dans mon rapport à l'esprit de gauche. Il y a des grandes tablées, la mer, les champs. Il y a des barricades, des tags, des voitures qui crament. Il y a aussi des side cuts, des seins à l'air. J'ai évolué dans divers milieux de gauche et je suis riche de toutes ces traversées. Ma prof de yoga en ligne, qui s'appelle Adrienne, Adrienne de la chaîne Yoga with Adrienne, elle dit « Commit to discovery ». C'est vraiment une phrase qui résonne en moi. Cultive ta curiosité, additionne ton savoir à celui de l'autre. Fais-toi ta propre opinion, nourris-toi de la culture de l'autre sans te l'approprier. Ouvre ton cœur et ton cerveau. Je dis ça parce que j'ai la conviction profonde qu'en faisant ça, la gauche gagne. Parce que la gauche, c'est l'empathie. C'est reconnaître à chaque être le droit de vivre décemment d'abord, puis le droit de désirer et de créer ensuite. Je vais m'arrêter là. Si cet épisode t'a plu, partage-le à tes amis de droite et à tes amis de gauche aussi. Tu peux lui mettre un cœur, un pouce ou 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Si tu as envie d'en discuter avec moi, tu peux me contacter sur Instagram. Tu peux me contacter sur Instagram, @intimatopia. Et tu peux aussi prendre un rendez-vous de 45 minutes avec moi. Si tu as l'impression que tu ne sais pas ce que tu désires et que tu ne sais pas ce que tu as envie d'incarner ou de créer dans le monde, sache que tu n'es pas seule, déjà. Et que c'est justement sur et que c'est justement les thèmes que je travaille avec mon offre de coaching. Si tu as envie d'en parler un peu plus longuement avec moi, et puis aussi de me donner ton avis, tu peux consulter le calendrier de mes dispos qui est dans la barre de description et t'inscrire pour un appel gratuit avec moi de 45 minutes. Et pendant cet appel, on pourra parler de ton rapport à l'art, à l'incarnation, de ton rapport au désir. Et si on sent qu'il y a quelque chose qui passe, qu'on se capte, si ça matche entre nous, je te proposerai une offre personnalisée pour faire éclore l'artiste en toi. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle nuit en fonction du moment où tu écoutes ce podcast. Cause le moins de souffrance possible. À très bientôt.
Bonjour, j'ai dans la bouche un petit bonbon de gélatine, mais qui n'est pas de gélatine animale. Et en fait, avant d'avoir goûté ces bonbons-là, je pouvais toujours me mentir en disant « Oui, mais en fait, on sent pas, on peut pas vraiment savoir quand il y a de la gélatine. » En fait, un bonbon vegan n'a pas du tout la même texture qu'un bonbon à la gélatine, donc sachez-le. Aujourd'hui, j'ai goûté des bonbons vegan et en fait, il n'y a pas d'erreur possible. Donc voilà, les gens qui essaient d'être vegan et qui mangent des petits bonbons, au fond de vous, vous savez. Moi je savais aussi, mais je n'osais pas l'admettre. Maintenant, je suis obligée.